Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. La relation entre les enfants et leurs parents a une grande influence sur la plupart des sphères du développement de l'enfant. Plusieurs des habiletés acquises en bas âge dépendent fondamentalement de la qualité des interactions avec les parents. C'est donc dans la suite logique des choses de chercher à soutenir le développement des jeunes en passant par du soutien offert aux parents. C'est ce à quoi se consacre notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Josée Letarte, qui travaille à examiner l'efficacité du programme « Ces années incroyables ». C'est un programme qui vise l'entraînement aux habiletés parentales dans différents contextes. Elle est d'ailleurs la seule formatrice francophone du programme, ce qui l'amène à voyager afin de former des personnes intervenantes partout dans la francophonie. Marie-Josée, elle est aussi membre chercheuse régulière au GRIZE et professeure titulaire au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Donc bonjour Marie-Josée, merci d'être venue discuter avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Marie-Josée, tes travaux de recherche visent à offrir des services aux enfants de manière plus indirecte, donc en passant par leurs parents ou leurs enseignantes, qui sont des figures d'influence majeure sur leur développement. Un des éléments sur lequel tu te penches, ce sont les habiletés ou les pratiques parentales. Donc, pour commencer, peux-tu nous parler un petit peu de ce que c'est et nous en donner quelques exemples?
Bien sûr. Alors, les pratiques parentales, c'est tout ce que les parents font pour éduquer leur enfant ou montrer à leur enfant ce qui est acceptable selon eux, leur partager différentes connaissances, valoriser des bons comportements. Alors, bien sûr, on les regroupe en trois catégories. Il y a d'abord tout ce qui est plus disciplinaire. Quand on parle de la discipline, c'est la gestion des comportements de l'enfant. Il s'agit d'encourager les bons comportements, comme par exemple féliciter les enfants, se réjouir de ce qu'ils font comme comportement, ce genre de trucs. Ou encore signifier à l'enfant quand il fait un comportement qui est dérangeant ou qui est inadéquat selon le parent. On parle aussi comme de punition de façon plus générale. Donc, l'autre catégorie, c'est la relation par enfant. La relation par enfant, c'est moins de l'ordre du comportement, c'est plutôt vraiment comment les gens, le parent puis l'enfant interagissent avec eux. Alors, on parle de parents qui vont être chaleureux, par exemple. Alors, même quand ils vont faire de la discipline avec leur enfant, ils vont le faire de façon chaleureuse, de façon affectueuse, avec un contact physique. Alors, ça, c'est plutôt le côté relationnel des pratiques parentales. Puis, finalement, il y a le volet de la stimulation parentale, c'est ce que les parents peuvent faire pour enseigner des contenus à leur enfant, mais plutôt de l'ordre cognitif, au niveau des connaissances. Ça peut être des connaissances sur des habiletés sociales ou des connaissances plus scolaires, mais donc tout ça, on englobe ça sous le concept des pratiques parentales.
En lien avec ça, il y a des programmes d'entraînement aux habiletés parentales qui ont été développés pour aider les enfants et les parents, dont le programme Ces années incroyables avec lequel tu travailles depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de ces programmes-là, puis de leur objectif en général?
Ce n'est pas des programmes vraiment récents, ce n'est pas une découverte récente, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Ça a commencé à être développé et utilisé vers les années 1975, donc il y a peut-être 45 ans. Et ils ont été développé dans la perspective d'utiliser les parents comme des co-thérapeutes au départ. En fait, c'était des gens qui essayaient de traiter les troubles de comportement des enfants qui se disaient, on va encourager les comportements des enfants. Puis ils se disaient, mais les parents, ils seraient tellement mieux placés que nous pour intervenir la plupart du temps dans leur famille et tout, alors que nous, on voit les enfants moins régulièrement. Donc, c'est un peu comme ça que ça a été développé au départ. Puis, finalement, on s'est aperçu que ça n'aidait pas juste l'enfant, mais que ça pouvait aussi aider le parent à être plus heureux dans son rôle de parent, pour communiquer avec les gens autour de lui et tout, mais on a arrêté de les voir comme des co-thérapeutes, mais vraiment plutôt comme des alliés ou même des personnes qui bénéficient d'une intervention parentale. Donc, c'est un petit peu comme ça. Au départ, ça a été vraiment conçu pour les troubles du comportement, troubles d'opposition, troubles des conduites. C'est, par exemple, Patterson, qui est le père de la théorie de la coercition, qui a développé dans les premiers programmes d'entraînement aux habiletés parentales pour contrer un peu le cycle d'entraînement à la délinquance et aux comportements antisociaux. Puis, après, bien, il y en a d'autres qui ont été dans la même visée. Donc, et avec le temps, bien, on s'est dit, bien, si on peut aider les parents qui ont des enfants qui ont des troubles du comportement, est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir avant que les troubles du comportement apparaissent et donc de prévenir l'apparition des problèmes de comportement? Puis, comme ça a évolué en même temps que les connaissances sur l'évolution des problèmes de comportement. Donc, on savait de mieux en mieux c'était quoi les facteurs de risque du développement des troubles du comportement. Donc, on a pu aider les parents qui vivaient dans une famille où est-ce que les risques de problèmes de comportement étaient plus grands. C'est un peu comme ça que ça s'est développé là, dans le temps.
Mais d'ailleurs, dans le cadre de ton doctorat, tu t'es penchée sur l'efficacité du programme Ces années incroyables, mais auprès de parents d'enfants qui présentent un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, quels ont été tes constats là, de manière générale dans ce doctorat-là?
Bien, merci de me poser la question parce que bien, j'ai toujours trouvé ça quand même intéressant, puis j'en ai plus beaucoup reparlé après mon doctorat, justement. Donc, bien, ce qui est intéressant, c'est que bien, tout ce qui est le TDAH, là, les troubles déficitaires puis de l'attention, hyperactivité, ça a toute une composante neurologique qui est un peu différente des autres troubles du comportement. Donc, on pouvait se demander est-ce que finalement une modification des pratiques parentales ce serait utile alors qu'il y a toute la partie neurobiologique qui est traitée avec des médications très bien. Alors, dans le cadre de mon doctorat, là, tous les enfants de l'échantillon avaient également une médication pour leur TDAH. Donc, on se demandait est-ce que il y a un ajout d'un programme d'entraînement aux habiletés parentales à l'efficacité de la médication. Puis on s'est aperçu que oui, et c'est ça que je trouve intéressant parce que, en fait, la médication, elle a évidemment des impacts importants là, sur l'impulsivité, l'hyperactivité, l'attention, mais pas beaucoup sur les relations sociales, sur la vie dans la famille, les compétences scolaires et le fait d'intervenir auprès des parents pour qu'ils soutiennent leurs enfants puis qu'ils les aident à développer des habiletés. On s'est aperçu que ça avait un effet plus grand que juste la médication parce que justement les enfants, ben oui, avec une médication, pouvaient bénéficier du soutien de leurs parents davantage pour développer les autres compétences qui sont affectées par leurs troubles.
Puis comme tu parlais tantôt aussi, là, que le bénéficiaire, ça peut être l'enfant, mais ça peut être le parent aussi. J'imagine que les parents d'enfants avec un TDAH se sentaient pas mal plus compétents une fois qu'ils suivaient le programme aussi. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez vu aussi?
Oui, on aura étudié leur sentiment de compétence parentale, puis on a effectivement vu des impacts à ce niveau-là, mais de façon anecdotique, je peux aussi raconter que les parents qui ont un enfant qui a un déficit d'attention sont souvent vivent souvent des matins difficiles, hein, parce que la médication commence à faire effet pas dès qu'on la prend, mais quelques minutes plus tard, et les parents relataient vraiment souvent leur plaisir à voir que la routine du matin se passait vraiment mieux comme ils savaient comment s'y prendre, comment ils pouvaient encourager les bons comportements de leur enfant avant que la médication fasse effet. Puis un peu la même chose, la routine en fin de journée, quand la médication ne fait plus effet, bien, les parents étaient particulièrement heureux de voir que bien, ils avaient maintenant des outils pour pouvoir accompagner leur enfant dans ces moments-là plus difficiles. Puis aussi, bien, en fait, avec toutes les matières scolaires et tout, bien, en ayant des outils en complément avec la médication, bien, ils se sentaient vraiment plus en mesure de pouvoir soutenir leur enfant dans les différents défis qu'ils présentaient.
Mais on voit que c'était complémentaire, en fait. Là, donc, c'est vraiment génial. Oui. Puis là, j'aimerais beaucoup t'entendre nous parler un peu plus du contenu du programme Ces années incroyables. Je sais qu'il est basé sur une pyramide parentale qui comporte 5 étages, où chacun de ces étages-là est une stratégie ou une habileté parentale qui va ensuite avoir des bénéfices pour l'enfant ou les interactions. Donc, est-ce que tu peux nous guider brièvement à travers les étages de cette fameuse pyramide-là?
Oui, bien sûr. Je te dirais que c'est pas mal ma passion, là, cette pyramide et son contenu. Alors, d'abord, te dire pourquoi c'est sous forme de pyramide, parce que ça me paraît important. C'est la pyramide parce que la base de la pyramide est plus solide et plus grande et occupe plus d'espace. Puis c'est les pratiques parentales les plus importantes pour favoriser le développement positif des enfants. Alors, on voit vraiment dans la pyramide que tout ce qui est à la base de la pyramide doit être utilisé par les parents en beaucoup plus grande proportion que ce qui est au sommet de la pyramide, qui devrait être finalement utilisé très peu si on a une base solide. Mm-hmm. Et en plus, bien, on peut s'imaginer une pyramide à l'envers. Bien, ça démontre que si on commençait par utiliser les stratégies qui sont au sommet, ça ne fonctionnerait pas, la pyramide ne pourrait pas tenir. Il faut vraiment commencer notre rôle parental puis la gestion des comportements des enfants à la base. Qu'est-ce qu'il y a à la base? En fait, c'est les deux étages du bas là, qui sont vraiment des qui inclut les pratiques les plus importantes. Puis celle de tout en bas, c'est la relation parent-enfant. Comment on peut, dans le fond, développer une relation positive avec l'enfant. Et dans ces années incroyables, le moyen qui est mis en place pour développer cette relation-là, c'est le jeu parent-enfant. On peut se demander pourquoi. T'sais, pourquoi est-ce que le jeu parent-enfant est plus important que le jeu dans la fratrie ou avec les amis? En fait, ça ne remplace pas, mais c'est vraiment une opportunité pour le parent de découvrir les intérêts de son enfant, ses compétences, ses goûts. Puis, c'est une belle opportunité aussi pour l'enfant d'entrer en relation avec son parent dans un contexte différent où il n'est pas en autorité, où ils sont plus d'égal à égal, où il peut exercer un peu ses habiletés et son contrôle. Fait qu'on passe vraiment beaucoup de temps à la base de la pyramide dans le programme aussi. C'est un programme qui dure 14 à 16 semaines. On passe au moins 5 semaines sur cet étage-là qui consiste à utiliser le jeu avec l'enfant pour développer la relation. Puis c'est aussi par le jeu qu'on va pouvoir stimuler l'enfant, par exemple, y apprendre des notions plus scolaires. Là. Mettons, on pourrait parler des couleurs, des formes, de mathématiques, mais aussi on va pouvoir lui apprendre à persévérer dans une tâche, on va pouvoir lui apprendre à avoir des bonnes habiletés sociales. Par exemple, les habiletés sociales sont souvent lacunaires hein, chez les enfants qui ont des problèmes de comportement. Bien, le parent, quand il joue avec son enfant à tour de rôle, bien, il va pouvoir être un modèle de jouer à tour de rôle avec son enfant ou encore d'attendre son tour ou de partager toutes les habiletés sociales qu'on veut encourager chez l'enfant.
La raison pourquoi c'est aussi important d'être en relation, est-ce que c'est parce que comme la relation est de plus en plus positive, l'enfant se sent plus, se sent moins porté à désobéir ou moins porté à être en opposition? Est-ce que c'est pour ça que c'est aussi important d'être dans cette base-là, justement, de relationnelle?
Ce que tu me dis est très important, puis c'est vrai ce que tu dis, mais il y a trois raisons. Donc, comme tu le dis, si l'enfant est en une relation positive avec son parent, il va être moins porté à s'opposer à celui-ci ou avoir des comportements dérangeants. Ça, c'est bien vrai, tu as bien vu. Mais aussi, le fait d'être dans cette relation-là permet à l'enfant de développer des comportements positifs. Puis on ne peut pas juste éliminer des comportements négatifs qui ont un but dans la vie. Là, l'enfant mm-hmm. qui s'oppose ou qui a des comportements agressifs, il le fait pour une raison, mm-hmm. parce que ça lui apporte quelque chose. Mais s'il n'y a pas d'autres comportements pour le remplacer, ce comportement dérangeant-là, bien, on ne peut pas l'enlever parce que ça ne pourra pas se maintenir, le changement dans le temps, parce qu'il n'y a pas un comportement de remplacement pour atteindre le même but. Donc, en utilisant le jeu, la relation avec son enfant, bien, le parent peut construire des comportements positifs qui vont éventuellement pouvoir remplacer, prendre la place des comportements dérangeants. C'est pour ça que souvent, là, après nos 5 semaines de travail sur la relation parent-enfant, déjà, on voit une diminution des comportements dérangeants parce que les comportements positifs prosociaux commencent à prendre plus de place et viennent tranquillement remplacer des comportements dérangeants. Puis finalement, la troisième chose, c'est que il est reconnu que les enfants... On dit parfois que les enfants ont besoin d'attention, puis on le dit de façon péjorative, mais pourtant, c'est un vrai besoin dans la vie des enfants d'avoir de l'attention de leurs parents, de la figure importante pour eux. Et cette attention-là qu'ils vont avoir, bien, va faire en sorte qu'ils vont moins chercher à obtenir l'attention de façon dérangeante. Donc, si on met en place une période de jeu entre le parent et l'enfant où vraiment toute l'attention est plutôt positive envers l'enfant, bien, on observe que les enfants ont moins de comportements qui vont être dérangeants puis qui ont pour but d'aller chercher l'attention dont ils ont tellement besoin de la part du parent. On dit des fois ça de péjoratif que moi, mon enfant, il cherche beaucoup l'attention, mais tous les enfants ont besoin d'attention, c'est normal. Sauf que si on remplit le besoin avec de l'attention positive, comme en jouant avec lui, bien, il va moins aller chercher de l'attention négative par la suite. Donc, c'est un peu pour ça aussi que c'est important d'avoir une base de pyramide vraiment solide.
C'est comme si, au lieu de punir les comportements qu'on ne veut pas, on essaye d'encourager les comportements qu'on veut avoir dans la dynamique familiale. Puis, qu'est-ce qu'on a au deuxième étage? Donc, tu disais qu'ils étaient reliés ensemble.
Oui, bien, tu faisais un très bon lien, hein, parce que c'est plutôt les comportements de renforcement du parent. Donc, quand tu dis encourager les bons comportements de l'enfant, bien, c'est ça, les félicitations, les récompenses, c'est ça qu'il y a au deuxième étage. Mais on va travailler avec les parents pendant 3 semaines là, dans le programme, à savoir comment utiliser, féliciter son enfant de façon efficace, comment on peut utiliser des récompenses pour aider l'enfant à fournir des efforts supplémentaires pour atteindre un objectif qui est plus difficile pour lui, par exemple. Donc, bien, on félicite beaucoup les enfants de façon générale, mais des fois dans les nuances du comment féliciter, bien, on est capable d'aller chercher une petite efficacité supplémentaire. Je te donne juste un exemple. Là. Si je te dis « Wow, Jeanne, tu as tellement des beaux yeux, c'est merveilleux », bien, ça ne va pas nécessairement susciter des comportements positifs. Oui, ça va être bon pour notre relation, pour ton estime de toi, mais je ne vais pas être en train d'encourager des comportements positifs. Tu comprends? Parce que je suis vraiment plutôt dans de l'éloge. Mm-hmm. Alors que les félicitations qui seraient ciblées vers des comportements. Par exemple, ben merci de me démontrer de l'intérêt dans ce que je te raconte, puis de sourire quand je te parle. Ben là, je suis en train vraiment de valoriser un comportement spécifique que l'enfant va comprendre que c'est ça que j'aimerais voir se reproduire dans nos interactions. Fait que les parents réfléchissent comme ça à savoir quoi féliciter, comment le féliciter pour pouvoir vraiment valoriser les comportements positifs de l'enfant. Puis comme tu l'as dit tantôt, ben ça a pour but de diminuer les comportements dérangeants en bout de ligne.
Puis qu'est-ce qu'on a au troisième étage maintenant?
OK. Bien, le troisième étage, là, on commence à mettre des limites au comportement de l'enfant. En fait, une fois qu'on a une relation positive, qu'on encourage ses comportements positifs, bien, il reste des comportements un peu dérangeants. Puis, bien, en mettant des limites au comportement de l'enfant, on lui apprend à vivre dans la société puis à répondre aux consignes autour de lui. Puis, on aborde ce thème-là sous différentes thématiques. Par exemple, d'établir une routine avec l'enfant. Parce que établir une routine, ça aide à l'enfant de voir son environnement comme étant prévisible. Il va moins s'opposer à vous faire différentes tâches quand ils reviennent tout le temps, à peu près dans la même séquence, puis il est rendu habitué. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec les matins, par exemple, bien, ça fonctionne qu'on se lève à telle heure, puis qu'on s'en va directement déjeuner, puis qu'après le déjeuner, on brosse les dents, puis après, on s'habille, puis etc. Bien, si ça se passe toujours à peu près de la même façon, ça va être beaucoup plus facile pour l'enfant de s'ajuster, puis il va moins s'opposer à nos demandes comme parents. Après, on va parler de règles dans la maison qui ont un peu le même objectif, c'est-à-dire de rendre l'environnement prévisible. Une règle, c'est quelque chose qui est stable, qu'on doit toujours appliquer. Il ne doit pas avoir plein de règles dans la maison, mais les règles de base devraient être établies clairement. T'sais, c'est pas juste à l'école qu'on devrait faire ça, mettre des règles en place, parce que les enfants, ils en ont besoin pour bien se comporter. Fait que l'environnement, il est prévisible. Chez nous, on peut pas, par exemple, monter debout sur le piano ou monter debout sur les meubles. On s'assoit pour manger ou des choses comme ça. Ben, comme l'enfant le sait et que c'est stable dans son environnement, ben, il va moins s'opposer encore une fois à ces règles-là. Puis finalement, toujours dans le troisième étage, là, on a l'idée de formuler des demandes claires à l'enfant. Fait que quand on lui demande quelque chose, ben, il faut que la demande soit claire, puis que l'enfant comprenne que c'est une demande qui est importante pour nous. Fait que souvent, on fait plein de demandes aux enfants, mais elles ne sont pas toutes également importantes. Mm-hmm. Y a bien des fois où, comme parents, on se regarde aller, puis qu'on se dit « Ah, mais ici, je vais peut-être tenter ma chance, mais s'il ne le fait pas, je ne vais pas vraiment me battre avec lui pour qu'il le fasse. » là. Mm-hmm. Alors qu'il y a d'autres demande qu'on se dit « Non, là, c'est sérieux, je vais aller au bout de ma demande. » Alors, c'est important que l'enfant le sache, c'est quoi les demandes qui sont importantes pour son parent versus les demandes pour lesquelles il prend une chance de demander un service. Alors, on réfléchit beaucoup avec les parents à comment formuler nos demandes. Par exemple, un petit truc rapide, bien, d'en demander une ou deux à la fois, d'éviter de demander la permission à l'enfant. Tu sais, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, vider la vaisselle? Bien, il y a des chances qu'il me dise non, hein, parce que je lui donne le choix. Donc, une façon plus efficace serait de demander à l'enfant poliment de vider la vaisselle, s'il vous plaît, puis bien, de réfléchir à ces habitudes-là qui sont dans la façon qu'on fait nos demandes. On augmente la probabilité que l'enfant puisse y obéir.
Puis là, on arriverait dans les deux derniers étages, un petit peu plus dans le haut de la pyramide. Donc, comme tu disais, des choses à utiliser avec un peu plus de parcimonie. Est-ce que tu peux nous décrire les deux derniers étages de la pyramide?
Oui. Alors, le quatrième étage, là, l'avant-dernier, c'est l'ignorance intentionnelle. Ça, c'est une stratégie qui est super efficace, mais qui nécessite ou qui exige une base de pyramide vraiment solide. C'est tantôt, je te parlais du principe de l'attention, que les enfants, ils ont besoin d'attention. Mm-hmm. Eh bien, si les enfants reçoivent beaucoup d'attention pour leur comportement positif, constructif, ben, si on... s'ils utilisent encore des comportements pour attirer l'attention, des comportements plus négatifs là, pour attirer l'attention, puis qu'on ignore ces comportements-là, bien, les comportements ils vont diminuer, voire disparaître. Okay? Parce que l'enfant il a déjà réponse à ses besoins autrement et parce que le comportement il apporte plus ce qu'il est supposé rapporter, c'est-à-dire l'attention. Okay. Mais c'est important de jamais ignorer des comportements agressifs ou encore même, mettons, la désobéissance d'un enfant. Un enfant qui refuse de ramasser ses jouets, si on l'ignore, il ne ramassera pas plus ses jouets. Là. Donc, ce ne serait pas des bons comportements à ignorer. Mais aussi toute la détresse de l'enfant. Donc, un enfant qui pleure parce qu'il s'est blessé, un enfant qui pleure parce qu'il y a une grosse chicane ou est-ce qu'avec un ami puis qui est très malheureux de ça, ben on va pas ignorer ses pleurs parce que c'est vraiment il a un besoin là d'être réconforté et on voudrait certainement pas ignorer ses comportements là. Puis juste pour une petite nuance là sur l'ignorance, il y a des personnes qui sont un peu hésitantes à dire ben il y a des est-ce que les enfants qui sont anxieux par exemple on peut les ignorer ou pas? Je dirais que si on a une base de pyramide solide, oui, parce que justement, si la relation parent-enfant, elle est très bien établie, très positive, chaleureuse, que l'enfant il obtient de l'attention de façon continue dans sa journée pour les bons comportements qu'il a, ça ne va pas amplifier son anxiété d'être ignoré. Puis d'ailleurs, on n'ignore pas l'enfant, on reste à proximité de lui pendant qu'on ne lui porte juste plus attention, c'est qu'on ne répond plus nécessairement à son comportement, on se détourne un petit peu. Donc, on peut l'utiliser avec des enfants qui ont des comportements ou des problématiques comme l'anxiété. Mais encore une fois, encore plus important d'avoir une base solide.
Bien, je pense que la nuance, comme tu l'as si bien dit, c'est que le besoin est déjà répondu autrement.
C'est ça.
Donc, on choisit d'ignorer un moyen négatif de ce même besoin-là qu'on répond déjà dans le quotidien.
Exactement. Puis l'enfant, dans le fond, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avoir, l'attention. Donc, il devrait utiliser ces moyens positifs-là qu'on a développés au fil des semaines. Là. Dans le programme Ces années incroyables, on arrive à parler d'ignorance vers la semaine 11. Donc, ça fait quasiment 3 mois qu'on parle d'attention positive avec les parents. Donc, quand on arrive à l'ignorance, bien, on s'assure là, que l'enfant ne soit pas ignoré toute la journée ou pour ses comportements positifs.
Puis notre dernier étage, vraiment, donc, les comportements à utiliser le moins fréquemment possible.
Exactement. Là, on parle vraiment des stratégies pour gérer des comportements comme l'agressivité, par exemple, ou encore une opposition importante qu'on ne serait pas capable de gérer là, en ayant des demandes claires. On privilégie dans le programme Ces années incroyables deux stratégies différentes. Premièrement, les conséquences logiques. Donc, une conséquence logique, c'est par exemple, l'enfant qui utilise pas correctement son vélo parce qu'il est allé dans un endroit où il avait pas le droit avec son vélo, puis qu'on lui enlève le vélo pour 24 heures. Donc, c'est logique. Tu ne l'as pas bien utilisé, alors je te prive de son utilisation pendant 24 heures. On ne veut pas des stratégies qui vont être des punitions vraiment sévères ou qui vont grandement durer dans le temps.
Mm-hmm.
Le but, c'est que l'enfant il comprenne que son comportement n'a pas été adéquat, puis que la prochaine fois, qui sera bientôt, il pourra utiliser le matériel de façon adéquate. C'est vraiment, là, ici, souvent de retirer quelque chose. Mm-hmm. Par exemple, l'enfant qui envoie le ballon dans la rue, bien, le parent pourrait dire, si tu continues à envoyer le ballon dans la rue, alors je vais te l'enlever pour une journée. Ou encore, si tu ne respectes pas les règles avec l'écran, bien, tu vas perdre ton privilège d'écran pour le restant de la journée, ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est les conséquences logiques. Puis, sinon, on va parler du retrait. Tantôt, bien, j'ai commencé cet étage-là en disant que c'était pour gérer l'agressivité ou la grande opposition, puis c'était le retrait que j'avais en tête, en fait, pour gérer ces comportements-là. Quand on parle du retrait, là, c'est vraiment d'isoler l'enfant, souvent dans la même pièce que nous, pour une courte période de moins de 5 minutes, là, parce que 3 ans, 3 minutes, 4 ans, 4 minutes, 5 ans, 5 minutes, mais 6, 7, 8, 9 ans, toujours juste 5 minutes, c'est suffisant. Puis, mais là, j'encouragerais pas nécessairement les parents à l'utiliser de façon spontanée, là, si on nous écoute dans notre balado, parce qu'il y a quand même des risques avec le retrait qui doit vraiment être bien utilisé pour pas donner lieu à des conséquences néfastes là, sur le plan, par exemple, de la relation parent-enfant ou encore de développer des... Ça peut faire en sorte que certains enfants en viennent, par exemple, à mentir pour éviter le retrait s'il n'est pas bien utilisé ou encore cherchent à s'enfuir. Donc, il y a toutes sortes d'effets qu'il faut vraiment éviter avec le retrait. Puis, il faut quand même bien savoir l'utiliser, mais c'est une stratégie qui est reconnue comme étant efficace pour, si elle est bien utilisée, pour gérer des comportements agressifs ou de la grande opposition de l'enfant. Fait que ça fait le tour de ma pyramide, je te dirais.
C'était vraiment intéressant et vraiment clair. Je pense qu'il y a plein de parents qui nous écoutent qui vont, ça va cheminer ou ça va leur ramener des nouvelles réflexions. Vraiment intéressant. Puis, tu sais, depuis le début, on parle surtout du programme dans le cadre des troubles du comportement ou d'un TDAH, mais les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, elles peuvent aussi aider à réduire les risques d'abus et de négligence, voire même prévenir le placement de l'enfant à l'extérieur de sa famille. Puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'on utilise les mêmes stratégies de la pyramide quand on veut prévenir ça? Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne dans ces contextes-là?
C'est toujours, toujours la même pyramide. Parce que la pyramide, c'est un peu comme notre coffre à outils de parents. Fait que j'en ai pas d'autres outils que je connais, que je pourrais ajouter dans ma pyramide par-ci, par-là. Donc, c'est la même pyramide pour tous les parents, peu importe le contexte où on utilise le programme. Par contre, c'est un peu la visée du programme. Moi, je pense qu'il faut pas... Tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la négligence, par exemple, c'est pas juste un programme de parents puis de pratique parentale. C'est bien plus large que ça. On parle vraiment d'isolement social, de peu de ressources, de pauvreté, de compétences, de soutien de l'environnement là, pour les parents. Donc, on va pas tenir les parents comme étant responsables de la négligence de leur enfant. Même dans les situations d'abus, oui, ils sont peut-être plus responsables, mais ça se peut que c'est parce qu'il n'y avait pas d'outils pour faire autrement puis qu'il y a eu un contexte favorable à l'apparition de l'abus. Mm-hmm. Fait que les programmes sont pas faits pour corriger la négligence ou encore pour agir sur la cause. Par contre, dans les familles où il y a de l'abus ou de la négligence, bien, on s'est aperçu que si on outille les parents pour qu'ils développent une meilleure relation avec leur enfant, puis qu'ils sachent comment gérer ses comportements positifs puis ses comportements négatifs, bien, on peut venir pallier aux effets de l'abus ou de la négligence sur le développement de l'enfant. Et oui, la négligence peut demeurer, là, ça ne va pas complètement l'éliminer, mais au moins le parent va mieux savoir comment prendre soin de son enfant dans le contexte d'adversité dans lequel vit leur famille. Le parent va avoir des outils pour pouvoir encourager leur enfant à avoir des comportements positifs. Donc, c'est les mêmes stratégies, mais on est sensible au fait qu'elles s'actualisent dans un contexte de plus grande vulnérabilité des parents.
Oui, puis ce que j'entends, c'est vraiment que toutes ces compétences-là, ces habiletés parentales-là, ça dépasse le but seulement de faire changer le comportement de l'enfant. On dirait que ça a un impact sur les dynamiques, sur le côté même plus un peu systémique de la famille. J'ai des familles en tête avec lesquelles j'ai travaillé en négligence, que c'est des apprentissages qu'on faisait ensemble. Je pense que ce programme-là, puis disons le contenu du programme, semble vraiment répondre à des besoins pas mal plus larges que juste le comportement de l'enfant ou le trouble du comportement.
Tellement, parce que les parents sont toujours affectés par les comportements de leur enfant ou les difficultés développementales de leur enfant. Ils n'en sont pas responsables. Puis même si on parle de programme d'entraînement aux habiletés parentales, puis que ça pourrait avoir l'air de prendre le parent comme étant responsable des difficultés de son enfant, ce n'est pas le cas. C'est transactionnel, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une dynamique entre l'enfant et son parent. Mais ces programmes-là, ils se disent que on peut travailler avec l'adulte pour que l'adulte mette un terme à ce cycle un peu là, où qu'il y ait des outils nécessaires pour mettre un frein à la dynamique négative qui s'est instaurée dans la famille. Donc, c'est vraiment exactement, ça va au-delà de juste féliciter les bons comportements, récompenser les bons comportements, punir les mauvais comportements, mais plutôt comment on peut instaurer une dynamique positive dans la famille et qu'on va d'abord miser justement sur une relation positive, sur l'encouragement des bons comportements de l'enfant plutôt que d'être dans de la discipline sévère.
Je vais t'amener un petit peu ailleurs sur un autre de tes projets, encore une fois, en lien avec ces années incroyables. Tu commences à explorer l'utilisation de ce programme-là dans le but de préparer les enfants vulnérables pour l'entrée à l'école. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là, puis comment t'en es venue à te poser cette question-là?
Ben oui, moi j'ai fait ma maîtrise sur la préparation à l'école, donc ça remonte à loin, mais j'avais fait ma maîtrise sur la préparation à l'école. Puis quand je suis arrivée à l'Université de Sherbrooke, j'avais deux collègues qui s'intéressaient beaucoup aussi à la préparation à l'école, Jean-Pascal Lemelin puis Thérèse Bénard. Puis on constatait tous les trois qu'il y a beaucoup de services au Québec pour aider les enfants à se préparer à l'école. On parle de tout le programme des CPE qui est vraiment intéressant puis qui aide les enfants à bien se préparer à l'école. Contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays où les garderies sont vraiment juste un passe-temps. Il y a des maternelles 4 ans, il y a beaucoup de soutien, par exemple, dans les CRDI pour des enfants qui auraient des problèmes développementaux. Pourquoi alors les enquêtes s'aperçoivent-elles en maternelle qu'il y a à peu près le quart des enfants qui ne sont pas prêts à aller en première année, qui n'ont pas tous les acquis nécessaires pour aller en première année? On se posait cette question-là, puis comme moi, j'avais fait mon doctorat sur les pratiques parentales, on s'est dit, bien, est-ce qu'il y a quand même, il n'y a pas beaucoup de services offerts aux parents à l'âge préscolaire pour aider les enfants qui ont des besoins plus grands, peut-être. Et on a voulu vérifier exactement ça. Est-ce que d'offrir un service supplémentaire aux parents pour que les parents puissent au quotidien mieux stimuler leur enfant, mieux l'aider à se préparer à aller à l'école, bien, est-ce que ça pouvait aider la préparation à l'école des enfants? Donc, on parle d'enfants vulnérables, là, mais ce n'est pas vulnérable sur le plan nécessairement socio-économique. C'est vraiment parce que c'est des enfants qu'on voit que dans un des domaines du développement, bien, ils n'ont pas nécessairement tous les acquis. Alors, soit que dans un des domaines, ils étaient, je dirais, en deçà du 10e percentile, ou encore dans trois domaines différents, ils seraient en deçà du 25e percentile. On se dit que ces enfants-là, bien, ils ont des risques d'avoir de la difficulté à commencer en première année, là, à apprendre à écrire, puis à lire, puis à s'adapter à leur groupe social qui va être plus grand, puis il va avoir des interactions différentes avec les enseignantes. Donc, on aide le parent dans les mois qui précèdent l'entrée à la maternelle, à développer des stratégies, mais c'est la même pyramide que tout à l'heure, mais on mise encore plus sur la base de la pyramide pour se dire, bien, il y a tout le volet de la stimulation du langage, stimulation cognitive, stimulation de l'intérêt pour apprendre des enfants. Alors, on utilise le jeu par enfant pour aller dans cette direction-là. Puis, après ça, bien, être prêt à aller à l'école, c'est d'avoir aussi des comportements d'autonomie, c'est de bien interagir avec les pères, avec les adultes. Fait que tous les outils de la pyramide, c'est les mêmes pour préparer l'enfant à l'école, mais vraiment, on les utilise spécifiquement là, dans un contexte où ben, l'enfant va intégrer la première année dans les prochains mois.
Parlant d'école, justement, ben, notre épisode va sortir en juillet, un moment où les enfants ben, vont être en vacances avec leur famille, puis où la structure habituelle de l'école ben, elle est plus présente dans leur quotidien. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais à dire aux parents qui souhaitent profiter de ce moment-là pour travailler les bases de la pyramide parentale?
Bien, c'est vraiment une bonne question parce que souvent, on a hâte, tout le monde a hâte aux vacances, on veut s'amuser dans les vacances, puis souvent, on se dit que s'amuser, ça rime avec mettre toutes les structures, puis les règles, puis les de côté. On se dit, on met tout ça de côté, on reprendra ça en septembre. Mais moi, je pense que pour s'amuser, il faut quand même garder une certaine structure. Puis, bien, c'est probablement un moment où est-ce qu'on peut passer plus de temps à jouer avec notre enfant, donc toute la stratégie à la base, là. Mm-hmm. Mais de lui donner de l'attention, ça ne veut pas dire juste de l'envoyer jouer dehors, puis de pas nécessairement être avec nous. Il a besoin encore de l'attention du parent. Puis on a tendance à se dire que oh, ben on va le laisser à plus de liberté, mais ils ont encore besoin de nous. Donc, de continuer à prendre du temps pour jouer avec eux, c'est une super belle opportunité. Puis l'autre outil que j'ai le goût d'encourager les parents à utiliser, c'est la routine. On pense que c'est la liberté, c'est les vacances. Mais si on garde une certaine routine, peut-être plus flexible que dans l'année scolaire, mais on va avoir plus de place pour le plaisir dans les vacances, je pense. Fait que, oui, place au plaisir pendant les vacances, mais quand même peut-être avec une certaine structure, des règles claires, des attentes claires pour que tout le monde soit heureux, que les enfants ils sachent dans quelle mesure ils peuvent s'amuser, puis que les parents aussi aient un certain cadre, puis ça devrait être garant de plaisir pour tout le monde.
Mais écoute, après t'avoir entendu, là, je peux facilement m'imaginer que certains parents vont vouloir mettre en place plusieurs des éléments de la pyramide. Fait que je te remercie beaucoup, Marie-Josée, pour ton temps, puis pour être venue nous expliquer ça. C'était vraiment super intéressant et pertinent. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à toi, Jeanne.
Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Marie-Josée Le Tartre, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du GRIS dans la description de l'épisode. Et pour ma part, je tiens à vous remercier, chères personnes auditrices, pour votre écoute et votre confiance. Aujourd'hui, c'était malheureusement mon dernier balado au micro. Puis pour le petit mot de la fin, ben, je tiens à dire que j'ai vraiment aimé monter ce projet-là avec l'équipe. Sonia, Chantal, Daniel, Geneviève, que je suis prête aussi pour des nouveaux projets dans le milieu clinique. Et puis, ben, je prévois aussi continuer à faire d'autres projets de radio ou de balado. Puis j'espère peut-être que vous entendrez encore ma voix, qui sait. De toute façon, je sais que je vous laisse en bonne main avec Lauriane Hébert, qui est une étudiante de maîtrise qui a vraiment hâte de venir vous parler puis vous faire découvrir d'autres chercheurs du GRIS. Donc, je vous dis ben, merci beaucoup puis à la prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du GRIS, vous pouvez consulter le site web www.gris.ca. À l'animation, Jeanne Boyer. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio Balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.